Vous écoutez CFM, émission spéciale élection législative. Avec aujourd'hui Loïc Esquèche, candidat NPA sur la deuxième circonscription du Tarn. Bonjour, bonjour à tous. CCFM et émission spéciale élections législatives, scrutin des 10 et 17 juin prochains. Une émission co-animée par Jean-Pierre de Testa. Bonjour Jean-Pierre.
Eh bien, bonjour Patrick Alfano.
Avec aujourd'hui Loïc Esquèche, candidat du NPA sur la deuxième circonscription du Tarn. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes résident de Lavaur, vous avez 28 ans, vous êtes jeune papa, le Benjamin de ce scrutin des législatives. Vous avez terminé vos études au lycée horticole, agricole, ça doit être Fond-Labour, à Albi, hein, c'est bien ça?
Non, il y a plein d'erreurs, mais c'est pas grave. La première, c'est que je ne vis plus à Lavaur, je vis à Montens.
D'accord.
Voilà, un petit village à côté de Gaillac. Et la deuxième, moi, j'ai fait lycée agricole, mais à Nîmes.
D'accord.
Et après, je suis atterri sur un petit BTS à Fond-Labour.
Ok, oui, donc Fond-Labour sur la fin des études.
Comme
quand
quoi
même.
Google, ça marche plus.
Hein. Google, c'est plus nuls. Que c'était.
J'ai pas actualisé ma page Facebook sur moi.
Oui, c'est ça.
Ah, mais c'est ça, d'accord. Alors, une petite précision par rapport à ces émissions spéciales législatives sur la méthode. On l'avait pas fait jusqu'à présent. Tout simplement pour vous préciser, à vous, auditeurs, que nous n'envoyons pas les questions à l'avance aux candidats que vous entendez à l'antenne. Ils ont une légère idée du plan, mais voilà, les questions, c'est au dernier moment. Et ce qu'on cherche à connaître, c'est davantage l'humain que le programme.
La
puisque,
spontanéité, la voilà. Fraîcheur et l'engagement.
Première question, c'est toi qui la poses, Jean-Pierre.
Loïc Esquèche, vous êtes le Benjamin de cette élection. C'est votre première élection en tant que
candidat.
Bravo, candidat. Quelles sont vos impressions sur cette campagne?
Alors, c'est mon impression, c'est que c'est une campagne qui est quand même difficile quand on travaille. Voilà, c'est que moi je suis un travailleur, du coup je suis aide médico-psychologique, donc je travaille en maison de retraite. Je travaille pas mal. Je suis papa d'un petit enfant, donc du coup ça me prend beaucoup de temps aussi. Donc c'est une campagne difficile, en tout cas pour donner de sa personne. Après on essaye de le faire le mieux possible, surtout pour se faire entendre une voix anticapitaliste dans ces élections-là, en tout cas face à des gens qui c'est des politicards qu'on ne voit sur le terrain ou qui pensent qu'à nous que pendant ces moments-là, quoi.
Vous ne vous revendiquez pas du communisme, c'est-à-dire de la mise en commun de toutes les ressources. Pourquoi?
Bon, déjà, lutte ouvrière, c'est des camarades qu'on retrouve dans les luttes au quotidien, au même titre que le Front de Gauche. Mais on se revendique pas du communisme parce que le NPA, c'est un parti large qui regroupe des gens qui sont libertaires, communistes, il y en a. Il y a des gens qui sont communistes libertaires, des gens qui sont écologistes, il y a des gens qui sont féministes, des gens qui sont anticapitalistes, point barre, qui en ont marre de ce système, qui sont indignés, révoltés, et qui ont envie de lutter, qui ont envie que ça change.
Une question d'actualité.
Oui, non, je vais revenir, excuse-moi Patrick, je vais revenir sur une phrase de Julliard dans « La prochaine révolution sera, si elle arrive, une révolution libertaire ». Je reviens sur ce que vous disiez du « melting pot », politique de votre mouvement. Pensez-vous que cette révolution libertaire pourrait avoir lieu?
Je ne sais pas si elle peut avoir lieu, en tout cas je le souhaite, mais surtout, moi ce que je prends c'est du concret. Ça fait des années qu'on nous baratine que la révolution c'est pas possible. Ouais, l'année 2011 a été quand même pas trop mauvais cru. On voit encore 2012, ce qui se passe au Canada. C'est très intéressant ce qui se passe au Canada. Je veux dire, ça fait 35 ou 36 jours, je crois, que les gens descendent au Québec, descendent dans la rue en tapant sur des casseroles pour s'opposer au début à la réforme de l'université. Mais aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus loin. Donc une révolution est toujours possible. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. C'est là où on va au mur, on est sur un bateau là. Et on va droit devant le mur, ou alors on saute, mais là on se noie tous, ou on décide de détourner le bateau et de partir dans l'autre sens, d'aller dans un autre endroit.
Oui, alors vous parlez des révolutions qui ont eu lieu du printemps arabe en particulier, je suppose. On voit ce que ça a donné finalement, c'est-à-dire on se libère d'un tyran et on prend une dictature religieuse. Et je vais plus loin, vous êtes dans votre programme pour l'autodétermination en Afghanistan, ce qui implique forcément le retour des talibans avec une régression totale de la liberté des femmes.
Alors. Y a plusieurs questions là, mais la première sur les révolutions arabes et de mettre en place une dictature religieuse. Bon, déjà premièrement, ces peuples votent, c'est déjà bien. Ils ont déjà le droit à une petite démocratie. C'est pas une vraie démocratie, mais c'est une petite démocratie. Après, qu'on prenne les cas de la Tunisie, faut savoir que on parle des nadas en gros. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même un syndicat qui est en train de se monter, qui est assez puissant en Tunisie. Il y a des contestations dans les bassins miniers de Tunisie. En Égypte, on parle des deux candidats qui sont arrivés, mais le troisième, qui est un ancien des Frères musulmans, c'est vrai. Mais en attendant, il représente une gauche laïque aujourd'hui. Oui, il a fait 23% à peu près. C'est une gauche qui regroupe tous les révolutionnaires de d'Égypte. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Alors forcément, c'est compliqué dans un contexte de révolution, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, il y a plein de choses qui se passent, c'est en ébullition et on laisse très peu la vie démocratique se faire pour les partis ouvriers. Premièrement. Deuxièmement, pour l'Afghanistan. Oui, il faut le retrait des troupes d'Afghanistan. Ça, c'est sûr. De toute façon, c'est d'être présent, de maintenir une force militaire, on fait que renforcer le camp taliban. On a fait pareil pour le Vietnam, je crois un peu, en maintenant tout le temps, on s'est enlisé, et en plus, on s'est enlisé et on crée l'opposition en face, on maintient ça. Et en plus, en Afghanistan, il faut être franc, on n'aide pas du tout une vraie opposition laïque de gauche se créer. On l'empêche au quotidien, on favorise le camp Karzai, je crois, qui est autant, oui, qui est pareil que les talibans, quoi.
C'est différent, c'est la corruption et les autres c'est le fanatisme. Donc
entre la peste et le choléra, il faut choisir.
Pas, mais non, il faut pas
mais
choisir.
Justement, c'est pour ça qu'il faut favoriser au maximum. Il y a des camarades. Enfin, je veux dire, on prend le Pakistan où on dit que c'est une dictature militaire à côté avec des talibans présents, mais il faut savoir qu'il y a le parti populaire pakistanais, les camarades là-bas qui luttent, qui se font tuer au quotidien par l'armée et par les talibans, mais qui représentent aujourd'hui une vraie force de contestation dans le pays, quoi. Et ben c'est ça, si on favorise et qu'on autorise en Afghanistan ça, peut-être qu'on aurait changé la donne.
CCFM, émission spéciale, élections législatives. Avec aujourd'hui Loïc Eskech, candidat NPA sur la deuxième circonscription du Tarn. Loïc Eskech, on arrive au cœur de la partie de cette émission consacrée à vos réactions, à celle du NPA, la politique mise en place par François Hollande et son gouvernement. Grosso modo, les Français, c'est un sondage récemment sorti, approuvent à 63% l'action de François Hollande, à 68% celle du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Votre commentaire ?
Eh ben, je me dis qu'ils rêvent un peu, mais qu'ils vont vite tomber de haut. De toute façon, on est déjà en train de tomber de haut quand on voit toutes les petites mesurettes qu'on nous offre. Mais voilà, nous, ce qu'on dit, c'est que on a mis une gauche à la droite. Voilà, c'est très bien. Maintenant, ça serait bien de mettre un chaos à l'austérité. Et ça, je crois pas qu'Hollande, il est prêt à mener ce match-là, de mettre un chaos à l'austérité. C'est pour ça que nous disons qu'il faut des candidats anticapitalistes qui essaieront en tout cas de mettre un chaos à l'austérité.
Le sens de la formule, Jean-Pierre.
Oui, bravo. Oui, alors, on parle du gouvernement. Mercredi 6 juin, le gouvernement présentait son projet sur les retraites. 100 000 personnes seraient concernées pour la retraite à 60 ans. Votre commentaire ?
Bah, déjà, c'est bien pour cela. C'est déjà bien pour tous ceux qui triment et qui vont pouvoir partir. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est rien, quoi. C'est rien. Il faut arrêter. Nous, quand on bosse sur le terrain, on sait qu'on est usé à 60 ans. On le sait tous. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on revienne aux 37,5 d'annuité pour tous et toutes de cotisation. Partir plutôt à la retraite. Pareil pour les travaux pénibles, 55 ans au lieu de 60 ans. Et puis, il faut un salaire décent parce que on parle depuis tout à l'heure des gens qui vont partir plus tôt. C'est bien. Mais il y a combien de gens dans la misère qui sont retraités, qui sont dans la misère? Moi, je travaille en maison de retraite, j'en croise tous les jours des gens qui galèrent. Des paysans, que ça soit des travailleurs ou des paysans d'ailleurs, mais qui reprennent des petits boulots comme à Mediapost ou autre. Ça, il y en a plein. Et justement, il faut un salaire décent à 1 700 € net pour tous et pour toutes. Et revenir à une retraite à 37,5 d'annuité pour tous.
Oui, c'est très généreux. C'est très généreux. Il y a 8 500 000 pauvres en France. Votre programme est d'une grande générosité, mais qui peut apparaître comme utopique. Comment financer ce bouclier social que vous voulez ? Avec un revenu minimum de 1 700 €, je vous dis, il y a 8 500 000 pauvres en France.
Avec la remarque que mais quand on est sûr de ne pas être élu, on peut se permettre de promettre tout.
Oui, alors là aussi je vais répondre deux fois, mais la première, vous me dites, c'est très utopiste, il n'y a pas d'argent. Enfin, l'argent, on la trouve toujours, mais je vais juste sortir un truc. Chaque année, on nous vole 200 milliards d'euros par an qui sont volés. En fait, il y a 10% du PIB des richesses produites qui sont passées de nos salaires qu'on a offert ou qu'on nous a volés, c'est pareil, aux exonérations salariales alors qu'on a offert aussi à travers des financements des entreprises qui ont licencié. Et quand je dis qu'on a offert, c'est pas à l'artisan, hein, c'est aux grandes entreprises, dont Total d'ailleurs, qui ne paye, je crois, zéro impôt.
Voilà, conseil donc d'administration, actionnaires, etc.
Et oui. Tout ça. Donc en fait, c'est un choix de société où on favorise les actionnaires de renflouer les banques alors qu'on sait qu'elles nous piquent notre argent au quotidien. Et ces 200 milliards qui ont disparu, ces 200 milliards, ça fait 30 ans qu'on nous les vole. Vous imaginez la somme ? On aurait pu couvrir les besoins vitaux de la population, que ce soit le logement, se nourrir, supprimer la taxe, la TVA, là, qui est injuste parce qu'on paye, qu'on soit riche ou pauvre, on paye le même prix des pâtes. On aurait pu, bon, régler le problème du logement, je reviens vite fait parce que c'est important, comme il y a énormément de gens qui n'ont pas de logement en France. On pourrait appliquer la loi de 45, réquisitionner les logements et faire payer dès qu'on peut, en fait, les plus grosses entreprises qui mettent de côté les logements pour en faire pour spéculer dessus, ce qui est inadmissible. D'ailleurs, on spécule pas sur l'humain, nous on dit. Voilà.
Petite remarque, oui, ces 200 milliards là, ils serviraient bien évidemment aussi à financer les 1700 euros nets promis comme base de SMIC, quoi.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça.
Revenu minimum.
Oui.
Revenu minimum. Nous, on est partant. Et après, on est pour l'augmentation de tous les salaires de 300 euros. Voilà, ça, c'est important. Après, les plus gros, peut-être, on en discutera. Mais en tout cas, sûr d'augmentation de 300 euros de tous les salaires. Et quand je dis ça, c'est aussi les minima sociaux. Parce qu'il y a combien, la dernière réforme de Sarko sur les personnes retraitées, les personnes handicapées, on a diminué les pensions. Il faut arrêter, on peut pas vivre avec ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pas survivre. Enfin, ce qui est humain, c'est de vivre, pas survivre, quoi. Après, avec cet argent, on pourrait favoriser pas mal de choses. Pour les jeunes, on avait parlé lors des présidentielles, mais favoriser l'allocation d'autonomie pour les jeunes. Combien il y a de jeunes qui galèrent, qui bossent, qui du coup ratent leurs études? Moi, j'en connais énormément. Parlez-en autour de vous, vous verrez combien il y a de jeunes qui... Et un truc, on parle pas de la prostitution. Combien de jeunes qui se prostituent pour payer leurs études? Voilà, bah, tout ça, un truc, c'est inadmissible. En tout cas, nous, on est pour favoriser avec une allocation d'autonomie tous les jeunes. Voilà, un petit salaire par mois. On est aussi pour investir cet argent dans la création de 1 million d'emplois dans les services publics. Dans nos ruralités, on a perdu la poste. On est en train, en tout cas, de la perdre. On a perdu je sais pas combien de services de proximité. Et pareil, enfin, je sais pas pour faire une fleur, mais les radios locales, ça a un rôle important dans la vie locale. S'il n'y avait pas vous, ça fait quand même vivre. Ça fait de la publicité pour le terroir, pour faire vivre la région. Et ensuite, pour une dernière chose quand même, c'est sur, avec cet argent, tout ce qu'on peut faire, c'est aussi favoriser, mener une politique sur l'écologie, c'est-à-dire lutter contre le nucléaire. Et nous, on est pour la sortie du nucléaire en 10 ans, parce qu'on peut, on sait le faire. Voilà, donc nous, on est pour favoriser ça.
Cécile Duflot, ministre du gouvernement François Hollande, mais d'Europe Écologie Les Verts, s'est lâchée il y a quelques jours sur la dépénalisation de l'usage du cannabis. À la veille du... Déjà, je veux vous demander, Loïc Escache, une réaction là-dessus. Et puis, à la veille du premier tour, c'est un procédé qu'on pourrait qualifier de... qui nous amène un peu sur d'autres sujets et pas sur le cœur du débat qui doit être à quelques jours de ces législatives.
Pour la légalisation du cannabis, mais qui n'est pas une priorité, mais nous, on est pour. Voilà, on ne va pas le cacher parce qu'on pense que...
Dépénalisation, légalisation ?
Dépénalisation et légalisation, enfin légalisation en tout cas. En tout cas, c'est de favoriser, c'est surtout lutter contre le... C'est surtout, en fait, arrêter les discriminations et surtout arrêter le... ce qu'on trouve anodin, en fait, entre guillemets. Voilà, après, de légaliser le cannabis, ça permet aussi de créer des structures pour des gens qui sont dépendants. Et ça se gérera mieux. En tout cas, on le contrôlera mieux. Voilà.
Peut-être répondre là-dessus. Il y a quelque chose qui m'impressionne pas mal quand on regarde un petit peu et qu'on s'intéresse un petit peu aux faits divers sur la presse quotidienne régionale, donc les faits divers locaux. On a souvent affaire à un espèce de déchaînement de entre guillemets d'excité qui nous disent oui, il faut le retour de la peine de mort, couper l'huile, etc., etc. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens?
Bon, déjà, rendre un message à dire aux médias. Alors, je sais que les journaux vont mal, mais de là à faire toujours de la surenchère, c'est peut-être pas la solution. Je crois qu'on parle toujours de beaucoup de malheur, mais enfin, du malheur qui est intéressant, du malheur qui fait vendre, du petit meurtre dans le coin. Alors que ça, c'est pas, on parle pas de la misère au quotidien de gens qui dorment dans la rue. Je vois rarement la Dépêche faire un article tous les jours sur un gars qui vit dans la rue au coin de notre rue qu'on voit tous les jours, quand sur notre poste qui a fermé dans tel village, sur l'école qui ferme. Alors, bien sûr, il y a des journalistes qui s'engagent et qui le font, mais c'est pas la une en général, c'est pas la une quoi. Et quand je la dépêche, c'est encore le moins pire que tous les autres journaux nationaux, on va dire entre guillemets. Après, ouais, de ce qu'on entend des gens, enfin moi je l'entends aussi, mais quand on pose le vrai débat, quand on pose le vrai débat, en général, les gens, ils se posent, ils réfléchissent, et en général, c'est pas ce qui sort, c'est pas la première, l'énervement qui va sortir, il y a quelque chose qui sort en général.
Question par rapport à la crise de la dette et la politique de François Hollande qui a voulu inclure un volet en fait un petit peu plus important de croissance dans ce traité européen. J'imagine que vous allez nous dire que ça va pas plus loin, ça va pas assez loin.
Ouais, c'est minime quoi, c'est toujours toujours je fais une grande annonce pour un petit programme derrière. Voilà, nous ce qu'on dit c'est qu'on doit pas payer la dette. Voilà, on l'a déjà dit au présidentiel, on continue de le dire. Quand on voit que les Grecs là les grosses banques elle emprunte de l'argent à la Banque Centrale Européenne à un taux de 1% et le revend au peuple grec à taux de 5%. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas très économiste, mais je comprends que déjà, on se fait entuber, quoi. Voilà. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas payé la crise des capitalistes. C'est eux qui nous ont coulés. C'est eux qui nous ont mis dans la faillite. C'est eux qui nous mettent l'austérité pour se faire encore plus d'argent. Ça, il faut pas oublier que, entre guillemets, quand on écoute la bourse tous les jours, moi, je comprends pas le nombre de points, mais en même temps, je comprends très bien que la bourse par moment augmente et ils se font pas mal d'argent. Et donc, nous, on dit qu'on n'a pas à la payer. Et donc, on n'a pas à payer cette dette, mais ses intérêts surtout, ses intérêts qui nous coûtent une fortune, qui pourraient aller dans tous les projets que je disais avant. Donc, on pourrait encore faire plus de projets, développer encore plus le service public, favoriser encore plus, de faire que nos vies valent plus que leurs profits au général, au quotidien, quoi.
On en arrive à des questions un petit peu plus locales, mais qui vont nous continuer à permettre de parler de sujets d'importance nationale. L'école de Castelnau de Montmirail, une classe qui devrait fermer à la rentrée, à moins que l'inspection académique ne fasse marche arrière, puisqu'il y a quelques jours, les parents d'élèves et une délégation avaient rendez-vous. Donc, un mot sur la suppression de tous ces postes, sur la suppression des la marche arrière annoncée de François Hollande avec l'embauche de 60 000 postes en 5 ans.
Alors déjà, pour cette école, c'est inadmissible parce qu'on est en train de tout casser. J'espère qu'en tout cas, que l'éducation nationale va revenir en arrière. Ça serait bien qu'elle revienne en arrière, aussi pas que pour ce village, parce qu'on a tendance, le problème, à défendre notre village, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Et ce qu'on dit au NPA, c'est qu'il faut, quand on défend notre école, quand on défend le sans-papier du village ou du quartier, quand on défend notre hôpital qui est en train de fermer, quand on défend notre usine qui est en train de fermer, ce qui serait bien, c'est que tous ensemble, on se mette ensemble, qu'on fasse un grand mouvement, et que ça soit Hollande ou la droite, on se prépare à descendre dans la rue. Et chaque fois qu'on ferme une école, chaque fois qu'on ferme un hôpital, chaque fois que dans nos quartiers populaires, il y a une bavure ou autre, on descend nombreux et nombreuses pour défendre ce projet-là, quoi. Quand on est nombreux, on gagne. On gagne, et ça, c'est quelque chose d'important, et on en a marre des défaites, et souvent, quand on est très, très nombreux, on peut gagner. Le CPE, c'est un exemple type, on est descendu nombreux dans la rue, on a aidé les jeunes, moi j'étais jeune travailleur, mais je suis venu les aider, et ben on a gagné, comme quoi, il faut arrêter d'être défaitiste, il faut y aller aussi, il faut aller gagner, quoi.
Jean-Pierre.
Oui, là, vous parlez en tant qu'ancien combattant, si je comprends bien, parce que c'était pas hier, pour nous éclairer.
Merci de me dire.
Oui. À 28 ans, ça va. Quels sont les combats sur le terrain que vous avez, vous et votre parti, NPA, menés dernièrement?
Alors, il y en a pas mal ces derniers temps, parce que le problème, c'est qu'on a plus le choix de lutte pour empêcher tout ce qu'on prend dans la tronche que pour proposer, voilà, de ce qu'on va avancer. Du coup, nous, on s'est battu, on a mené la bataille sur le gaz de schiste qui nous arrive dans le département, mais qui touche d'autres départements. Ça, c'est un combat où le NPA est partie prenante du combat contre le gaz de schiste. On est aussi membre, nous, localement, du réseau Sortir du Nucléaire, et on est présente à toutes ces actions-là. Bon, on a une bonne liste de là où on est présent, parce qu'on est engagé quand même dans le mouvement palestinien. On soutient la cause palestinienne et contre la politique d'Israël au quotidien. On est quand même présent dans le mouvement des sans-papiers. On est pour la régularisation de tous les sans-papiers, parce qu'on considère que quand on vit ici, qu'on cotise ici et qu'on travaille ici, on voit pas pourquoi on n'a pas le droit de décider. Ça, c'est un droit qu'on considère naturel. Nous, on est pour la liberté de circulation, et par contre, on n'est pas pour la liberté de l'argent, mais on est pour la liberté de circulation des personnes.
Dernière question avant de vous laisser un petit peu plus libre de vos propos, peut-être une réaction. Vous nous avez dit que vous étiez pour la sortie en 10 ans du nucléaire au NPA. Est-ce que, sur la question que je vais poser, vous rapprochez également d'Europe Écologie Les Verts en ce qui concerne le monde agricole et la réforme de la PAC, c'est-à-dire que cette politique agricole commune vient soutenir en premier lieu, en priorité, les petits paysans, ceux qui font du bio. On parle pas forcément là de label, mais en tout cas, un encouragement décisif pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement.
Oui, alors bon, première chose, c'est que nous, la PAC, la politique agricole commune, c'est un échec dramatique en fait. C'est un système qu'on dit qui consiste à produire. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que nous, on est pour sortir de ça, sinon on va à la crise. Nous, on est éco-socialistes. On considère que l'écologie et le social vont de pair ensemble, et c'est pour ça qu'on favorise déjà, l'agriculture locale. On favorise donc forcément les AMAP. À travers ça, on est pour les AMAP. Après, on est pour aussi avoir des AMAP non plus, des AMAP qui reviennent à leur fondement, c'est-à-dire aussi où le consommateur est consomme-acteur. Ça, c'est important parce qu'on considère que voilà, nous, on veut que les gens soient acteurs de leur vie. Ça, il peut autant discuter avec l'agriculteur que l'agriculteur peut discuter avec le consommateur.
Les dérives que vous insinuez, c'est une communication qui ne marche pas entre les consommateurs et le paysan qui a beaucoup de travail et qui peut-être a du mal parfois à nouer un lien quotidien avec ses consommateurs.
Moi, je suis dans une AMAP. Voilà, je sais très bien comment ça fonctionne. Et enfin, je sais très bien. J'ai vu à peu près, j'en ai vu plusieurs. Et je vois que souvent, on est en train de partir, c'est vrai, parce qu'on est dans une société où on est toujours en consommation. On se pousse à la consommation, on nous entraîne à la consommation en tout cas, et du coup, dans les AMAP, on crée ça aussi, et donc c'est pour ça que nous on est pour revenir aux fondamentaux de l'AMAP qui sont sur la charte de la Confédération Paysanne. C'est pour ça qu'on est pour favoriser aussi les liens avec la Confédération Paysanne et ce que propose la Confédération Paysanne, parce que quand même sur l'agriculture, il faut savoir qu'il y a énormément d'agriculteurs qui galèrent aujourd'hui, même en bio. On galère quoi, enfin ils galèrent, et du coup, et encore quand je dis galérer, c'est un grand mot parce que eux ils touchent un petit salaire. Mais souvent, la compagne ou le compagnon ne se déclare pas et travaille. Et alors, c'est des revenus, mais c'est encore plus bas que le seuil de la misère, quoi. Et donc, nous, on est pour valoriser en tout cas ça. On est aussi pour fixer les prix, pour le blocage des prix pour les grandes surfaces qui ont tendance à faire baisser les prix de plus en plus aux agriculteurs. Ils les font baisser pour acheter.
Il ne faut pas baisser les marges arrière, par contre, a priori. Donc, le prix entre le producteur et ce que vend la grande surface... je parle du petit producteur. Hein. Mmh. Le prix a considérablement augmenté, pas pour le producteur, mais oui, les marges arrière.
Pour les distributeurs.
Mais ça, je veux dire, c'est que bloquer ça, il faut empêcher ces grandes surfaces de faire un profit faramineux. C'est aussi pour ça qu'on disait d'aller mouiller sa chemise, c'est de faire ça. C'est déjà de mettre un revenu décent à l'agriculteur.
Concrètement, comment ça peut se passer? Il s'agit de légiférer sur qui détermine le prix d'achat,
voilà,
etc.
Une loi qui détermine le prix d'achat, qui n'est pas fixé au niveau de la bourse, qui n'est pas fixé au niveau de ce que veut le monsieur Leclerc ou monsieur Carrefour, quoi. Voilà, c'est de fixer, on décide de ce qui est décent, c'est-à-dire 1700 euros mensuels pour l'agriculteur.
Vous écoutez CFM, émission spéciale élections législatives. Et c'est aujourd'hui avec Loïc Esquèche, candidat NPA sur la deuxième circonscription du Tarn. On arrive à la dernière partie de cette émission, elle est totalement free. Loïc Esquèche, vous pouvez là évoquer ce que vous souhaitez, peut-être des sujets qu'on n'a pas pu évoquer durant ces 20 et quelques minutes.
Ouais, moi je voudrais revenir quand même sur un truc important, c'est il y a une loi là à un moment quoi, qui est partie, c'est la loi sur le harcèlement sexuel.
Invalidée par le Conseil constitutionnel, si mes souvenirs sont bons.
Voilà.
Oui, bravo.
Voilà, et ça je trouve ça inadmissible. Alors c'est complètement inadmissible pour toutes les victimes, que ce soit hommes ou femmes, parce que voilà, c'est inadmissible ce qui se passe. Ça fait des années qu'on lutte pour le droit des femmes, mais pour dans ce cas-là aussi des hommes, parce qu'il y a le cas de harcèlement sexuel. Il faut savoir quand même que cette loi est un peu bizarre, elle est partie alors qu'on sait qu'il y a un tiers des élus qui ont des petits problèmes de harcèlement sexuel en tout cas. Donc c'est bizarre un peu.
Des noms sur la deuxième circonscription.
J'ai pas de nom, mais bon, je pense qu'un jour on fera qu'on fasse du ménage en tout cas. Voilà, en tout cas nous on pense que c'est inadmissible et on pense qu'il faut faire une loi, revenir à une loi, même l'augmenter cette loi, c'est-à-dire apporter encore plus de précision sur qu'est-ce qu'est le harcèlement sexuel. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous, on défendra. Et nous, ce que le NPA va défendre, c'est une candidature anticapitaliste, féministe, révolutionnaire, anticapitaliste et éco-socialiste lors de cette circonscription, enfin, lors de cette législative.
C'était Loïc Esquèche, candidat du NPA sur la deuxième circonscription du Tarn. Merci d'avoir joué le jeu. À très bientôt à l'antenne de CFM.
Adicias.